Allô.
Fréquence Terre.
Sur Fréquence Terre et au Salon Planète Durable, en direct toujours. Nous allons parler de nouvelles énergies aujourd'hui et à l'instant pendant une heure. Nouvelles énergies et notamment énergie renouvelable avec Nicolas Milko, PDG de Planète Oui. Bonjour. Vous nous expliquerez, Nicolas Milko, ce qu'est Planète Oui, qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui vend de l'énergie, énergie renouvelable. Et puis pour animer ce débat, Cyril Souche de CDurable.info. Bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, nous allons commencer par les énergies renouvelables.
Oui, bonjour. Alors, énergie renouvelable en ce moment, c'est vraiment un sujet qui fait polémique puisqu'on parle même d'ouvrir et de réouvrir un nouveau débat sur l'énergie, sur la place du nucléaire, sur ce moratoire sur le photovoltaïque qui fait que la filière entière se retrouve dans une situation extrêmement délicate. On a beaucoup cherché à obtenir des personnalités susceptibles de nous donner des avis sur cette situation prise par le gouvernement. Ils ne se sont pas bousculés pour nous rejoindre. Par contre, on a effectivement Nicolas Milko, qui est le PDG de Planète Oui, qui est le seul opérateur historique à proposer une offre d'énergie 100% renouvelable, qui a accepté de venir éclairer un peu notre compréhension de la situation de l'énergie. Alors Nicolas Milko, dites-nous déjà un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit dans une structure qui s'appelle Planète Oui, donc qui a priori dit oui à la planète, mais j'imagine que c'est un parcours aussi humain qui a fait qu'un certain nombre d'étapes ont conduit à cet engagement militant en faveur des énergies renouvelables.
C'est vrai que les choses ont commencé il y a quelques années de ça, parce que pour être très clair avec vous, c'était en Inde, à côté de Pondichéry. J'ai passé quelques mois là-bas. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement les énergies renouvelables étaient peut-être parfois plus développées dans ces régions-là que chez nous. En fait, je suis un des anciens cadres de POEO. J'ai fait partie du nouvel opérateur d'électricité. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'attente des consommateurs était dans le cadre des énergies renouvelables. Et donc j'ai décidé...
Qu'est-ce qui vous a permis de prendre conscience de ça, que cette attente était... en matière d'énergie renouvelable au niveau de consommation.
Parce que c'est une question récurrente. C'est une question récurrente lorsque on commence à s'intéresser à sa facture d'électricité, lorsqu'on commence à expliquer, à démystifier cette facture, on se rend compte qu'il y a une vraie attente des consommateurs de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que notre électricité soit pas forcément issue du nucléaire? Est-ce qu'il y a des alternatives possibles? Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2007... parce que Planète Oui n'est pas un opérateur historique, c'est un jeune opérateur. En 2007, j'ai décidé de créer cette société parce qu'il n'y avait pas de proposition. Je dois faire une petite parenthèse quand même, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait une proposition qui est celle d'Enercoop, qui est un concurrent, mais un concurrent confrère, avec qui on a vraiment deux offres.
Aussi sur ce.
Ouais, tout à fait. Vous allez recevoir cet après-midi. Et c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'actions dans ce domaine-là, de faire en sorte que on puisse permettre aux consommateurs d'agir et d'avoir une action concrète, autant sur sa facture d'électricité que sur sa consommation.
Alors, j'interromps un tout petit peu le débat pour accueillir Ariane Vénin qui vient d'arriver. Bonjour. Ariane Vénin, vous êtes fondatrice d'ESF Écologie Sans Frontières. Et vous allez nous parler également de ces énergies renouvelables avec cet autocollant que vous tenez à la main. Touche pas à mon panneau solaire. C'est aussi le nom d'un site, TPA MPS. Vous allez nous en parler aussi durant ce débat.
Oui, rajoutez d'ailleurs que vous êtes coordinatrice aussi du site rio2012.fr qui est un rendez-vous de taille et de poids. Bonjour Ariane Vénin, merci de nous rejoindre. Présentez-nous peut-être Écologie Sans Frontières en quelques mots. On a reçu hier Franck Laval, donc on en a un petit peu entendu parler, mais pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui.
Alors Écologie Sans Frontières est l'une des associations agréées pour la défense de l'environnement au plan national et l'une des associations membres du Grenelle de l'environnement, où nous avons essentiellement axé notre travail et nos revendications, notamment sur le développement des énergies renouvelables.
Ça vous fait un point commun avec Nicolas Milko.
Voilà, tout à fait. Et par ailleurs, Écologie Sans Frontières, récemment, en décembre, à l'occasion du moratoire photovoltaïque décidé par le gouvernement, a lancé le collectif « Touche pas à mon panneau solaire », qui regroupe déjà 4000 membres sur Facebook, à la fois citoyens ou entreprises, très favorables au développement de cette énergie propre, locale, et durable.
Quelle est la situation justement de ces membres, puisque vous en êtes porte-parole de ce collectif?
Écoutez, le moratoire photovoltaïque décidé par le gouvernement a porté un sacré coup dur à la filière. Toutes les grandes toitures sont désormais beaucoup moins intéressantes, mais néanmoins, je tiens à souligner que le photovoltaïque reste très intéressant pour les particuliers.
On va y revenir, mais je crois qu'on discutait en préparant cette émission avec Nicolas Milko. C'est lié notamment ce moratoire au tarif de rachat de la production d'énergie photovoltaïque. Nicolas Milko me confiait que pour l'instant, ce rachat ne se fait que par l'opérateur historique et il a le monopole là-dessus et pas par de nouveaux opérateurs.
Et je vais tout à fait aller dans ce sens-là. Je veux cet autocollant. Je vais vous donner un exemple très concret de la politique du gouvernement sur cette politique qu'ils ont menée sur le photovoltaïque. Planet Wii existe depuis 4 ans et nous avions pour projet de monter une centrale photovoltaïque de 5 MW dans le nord de la France. C'était un vrai défi démontrer qu'on pouvait produire de l'électricité avec l'énergie photovoltaïque, même si on était au nord de Paris. Eh bien, ce projet, malheureusement, Planet Wii est obligé de l'abandonner. Alors qu'on avait rassemblé plusieurs industriels, on avait rassemblé les financements, on avait trouvé le terrain, on avait la possibilité de véritablement faire un projet formidable pour pouvoir présenter aux gens du Nord-Pas-de-Calais une vraie centrale solaire, eh bien, malheureusement, on est obligé d'arrêter complètement ce projet-là. Dans les nouvelles conditions dans lesquelles on est en train de nous exposer, nous n'avons pas la possibilité de développer cette centrale.
C'est-à-dire que ce n'est plus rentable ?
Oh, même pas, c'est interdit. Le gouvernement a interdit tous les projets photovoltaïques de plus de 100 kW, puisque les autres sont carrément exclus du système. Et 100 kW, c'est des moyennes toitures, c'est 1000 m², ça paraît grand, mais c'est rien.
C'est possible d'interdire, alors que a priori, il y a un engagement international, européen, national décliné dans les énergies renouvelables d'interdire de nouvelles opérations?
Écoutez, dans les arrêtés et décrets de mars 2011, le gouvernement a fixé un tarif d'achat de l'énergie solaire produite au-delà de 100 kW à 12 centimes. 12 centimes, n'importe quel opérateur vous dira, c'est même pas possible. Même en Allemagne, où ils font 10 fois plus que nous de photovoltaïque, où ils ont des prix de matériel extrêmement intéressants, ils n'y arrivent pas.
C'est pas assez.
12 centimes, c'est impossible.
Alors, les avancées, les reculades du gouvernement, il y a des petits extraits sur le site « Touche pas à mon panneau solaire ». On va en écouter un extrait, justement, à l'instant.
Parmi toutes les énergies, alors, il y a des exigences plus fortes, à mon avis, dans le solaire photovoltaïque.
Il y avait des engagements. Nous, entrepreneurs, on a suivi. On s'est engouffré dans cette voie des énergies renouvelables. On considère que sur le plan écologique, c'est l'avenir. Que sur le plan économique, c'est aussi l'avenir. Au début, cette filière, il faut qu'elle soit aidée, comme toute filière industrielle.
La France décide d'investir dans le photovoltaïque sur la durée, sur le long terme.
La loi a changé 4 fois, le gouvernement, en 2010. Décembre dernier. Suspension pendant 3 mois de tout le système d'aide au niveau du photovoltaïque. Donc 3 mois d'arrêt pour des dossiers qui, la plupart, avaient au moins 3 mois déjà, étaient engagés depuis 3 mois. Et ensuite, le temps que tout ça redémarre, avec la perte de confiance, avec les démarches administratives, encore 6 mois, le temps de pouvoir retravailler. Donc vous avez 3 plus 3 plus 6, 12 mois, 1 an de carnet de commandes. Toutes les entreprises qui n'avaient pas 1 an de carnet de commandes ferment les unes après les autres. En moins de 4 ans, on avait créé plus de 20 000 emplois. C'est des emplois qui aujourd'hui sont menacés. Il y a déjà des plans sociaux qui sont mis en place chez PhotoWatt, dans des entreprises conséquentes. Et puis tous les petits artisans qui sont ici en nombre, qui ferment les uns après les autres.
Quelle entreprise peut vivre, dis-moi, sans salaire, sans foyer? On nous a dit d'investir, on a cru l'État, on a cru à l'environnement, on a cru à la directive des 23% sur les ENR, on a cru à tout ça.
C'est le fils d'un ministre qui s'exprime. Alors, ainsi.
C'est des extraits qui ont été pris pendant cette manifestation du 11 février qui était organisée par Touche pas à mon panneau solaire, des extraits mixés avec donc les promesses de Nicolas Sarkozy en matière de photovoltaïque. Une réaction peut-être, Ariane Wenham?
C'est une grande déception et c'est à la fois une grande déception que les engagements du Grenelle ne soient pas tenus par le gouvernement, et c'est à la fois un grand scandale, parce qu'on, à l'aube de la crise nucléaire du Japon, on s'aperçoit que l'État français n'a Dieu que pour le nucléaire. Et les énergies renouvelables, il n'en a rien à faire.
Avec des conséquences en plus sociales, on l'a entendu, 20 000 emplois qui risquent d'être menacés.
Qui sont menacés, c'est-à-dire que les plans sociaux sont déjà en cours chez PhotoWatt, mais également chez Solaire Direct, chez tous les industriels, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient TPE, PME ou grosses entreprises, il y a eu des charrettes de licenciement.
Le moratoire dure jusqu'à quelle date ?
Alors, il est terminé depuis la mi-mars, depuis le 9 mars, mais les nouveaux textes qui devaient réguler et aider au développement de la filière photovoltaïque française sont incapables de remplir cette mission puisqu'ils interdisent tout projet au-delà de 100 kilos.
Donc, pour l'instant, tout est bloqué.
Tout est bloqué, sauf pour les particuliers qui souhaiteraient investir dans le solaire, pour lequel, là, le plafond des projets a été porté de 3 kW, donc moins de 30 mètres carrés de panneaux, à 9 kW. Donc, un particulier peut désormais, avec des conditions très intéressantes, donc très rentables, faire des projets de 9 kW, soit 90 mètres carrés de panneaux sur son toit.
Donc, c'est juste un coup d'arrêt à la filière des professionnels.
Exactement.
Moi, j'ai quand même entendu, dans l'extrait qui vient d'être diffusé, notre président de la République, Nicolas Sarkozy, dire, je cite, « La France décide d'investir sur le photovoltaïque sur le long terme. Le constat, c'est qu'effectivement, il y a une politique de stop and go que vous dénoncez, à « touche pas mon panneau solaire ». Il y a même des arguments qu'évoque le gouvernement pour justifier ce moratoire, contre lesquels vous avez d'autres arguments.
Bah écoutez,
comment vous expliquez ça, en fait ?
Le principal argument du gouvernement, c'était de dire qu'il y avait une surchauffe. Il y avait un emballement trop important des Français pour l'énergie solaire. Mais au lieu de prendre les mesures correctives qui pouvaient s'imposer, à savoir une baisse des tarifs d'achat, mais une baisse progressive, mesurée, annoncée, à laquelle les professionnels auraient pu s'adapter, le gouvernement a préféré tout suspendre. C'est comme si vous disiez à un boulanger ou à un vendeur de voitures, écoutez, stop les gars, vous avez vendu trop de bagnoles grâce à la prime à la casse, maintenant vous arrêtez tout et pendant 9 mois vous bossez plus. C'est exactement ça que l'État a fait en matière d'énergie solaire photovoltaïque. Et c'est scandaleux car on s'aperçoit que parmi les projets qui ont échappé à ce moratoire photovoltaïque, seul un opérateur, l'opérateur historique, à savoir EDF Énergie Nouvelle, par cette filiale dédiée Énergie Nouvelle du groupe EDF, a trusté l'ensemble des projets qui ont échappé à ce moratoire.
Alors je dois préciser d'ailleurs, Ariane Véné, à propos de EDF Énergie Nouvelle, que nous avons pris contact avec eux, nous leur avons proposé de venir sur cette émission, et le service de presse nous a très clairement expliqué que compte tenu du fait que vous étiez présente et particulièrement virulente à leur rencontre, ils estimaient qu'ils n'étaient pas... Ce n'était pas le meilleur moyen, le meilleur moment pour eux pour venir s'exprimer, et nous le regrettons. Mais
c'est sûr qu'effectivement, les monopoles, ça supporte difficilement les débats. Et c'est une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, EDF soit toujours l'interlocuteur unique à la fois du gouvernement, mais de l'ensemble des acteurs du domaine de l'énergie, et qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable de faire en sorte que d'autres acteurs, d'autres voix puissent s'exprimer dans ces domaines-là? C'est assez surprenant et c'est tout à fait regrettable. Ouais.
Et notamment, puissent racheter l'énergie à ces sources de production locales qui aujourd'hui sont obligatoirement à réinjecter dans le réseau EDF, mais qui pourraient demain, si c'était possible, parce que vous, Nicolas Milko, vous vous battez par rapport à la loi NOM, alors qui veut dire Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité, avec un appel un peu citoyen que vous avez lancé sur le net, nucléaire français, énergie renouvelable, quelle société voulons-nous transmettre à nos enfants? Et c'était une manière un peu d'aider à décoder les enjeux de cette loi. Et est-ce que vous aimeriez qu'elle permette à des opérateurs...
Effectivement, le principe de départ de Planète Oui, c'est de dire que nous, on est opposé au monopole. Donc au moins les choses sont claires, nous ne sommes pas du tout favorables à ce monopole. Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que le marché de l'énergie s'ouvre depuis 2000. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'acteurs dans le domaine de l'électricité et du gaz sur le territoire français. Malheureusement, on constate au bout de 10 ans qu'effectivement le nombre d'acteurs, il est vraiment très réduit. On a Poéo, on a Direct Energy qui sont dans une logique de réduction de coûts. Il y a Enercop qui est un opérateur d'électricité 100% renouvelable qui est présent sur le territoire, au même titre que nous, Planète Oui. Et ce qui est dommage, c'est qu'on s'aperçoit. Donc cette loi NOM a pour objectif de faire en sorte que la concurrence, s'ouvre un peu plus sur le marché français. Alors c'est pour ça que ce rendez-vous de la loi NOM, il est important. Il a été débattu à l'Assemblée nationale. Il y a eu différents amendements qui ont été proposés. Certains, malheureusement, ont été rejetés. C'est entre autres ce fameux amendement Enercop qui avait pour vocation de permettre aux nouveaux opérateurs d'être soumis à l'obligation d'achat. Allez, pour faire simple, lorsque vous avez un panneau photovoltaïque, au lieu de vendre votre électricité à EDF obligation d'achat, vous pouviez vendre votre électricité à Planète Oui, à Enercop ou à un autre opérateur.
Ce qui paraît logique.
Ce qui paraissait assez logique. Ce qui permettait d'ailleurs de mettre du débat et ce qui permettait de multiplier les acteurs au moins autour de la table pour faire en sorte que, typiquement, sur ce qui s'est passé dernièrement sur le moratoire, il y aurait eu plusieurs interlocuteurs et nous aurions pu défendre la position des installateurs du photovoltaïque. Eh bien, malheureusement, non. On s'aperçoit que quand on a le monopole, on ne se pose pas toutes ces questions-là. On règle la question assez rapidement et puis, malheureusement, on provoque des catastrophes en termes économiques parce qu'effectivement, ce sont les emplois qui disparaissent, mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont de futurs emplois qui ne vont pas être proposés.
Ariane Vénin, vous qui êtes aussi expert juridique, il n'y a pas un moyen d'intervenir sur le plan du droit, parce qu'on est dans un état de droit.
Alors déjà, dès lundi dernier, nous avons obtenu une grande victoire en torpillant un projet d'EDF qui avait donc échappé au moratoire photovoltaïque de manière totalement illégale. Et le tribunal administratif d'Orléans a sanctionné l'attribution par le Conseil général d'Eure-et-Loir sur la grande base militaire de l'OTAN à Crucet, l'attribution donc de ce méga projet EDF de 260 mégas photovoltaïques qui tombe à l'eau grâce à une action juridique. Et ces actions juridiques, je tiens à souligner que touche pas à mon panneau solaire, est extrêmement déterminée. Fort de ces 4000 membres, nous avons une puissance de frappe multipliée sur le territoire et donc nous allons attaquer l'ensemble des projets. Plus encore, comme ce monopole typiquement franco-français, géré par les nucléocrates techno de chez Bercy qui n'entendent que la voix de leur maître EDF, nous portons cette affaire à la Commission européenne qui se révèle très sensible à nos arguments.
Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous défendez le nucléaire et en même temps vous combattez le solaire, excusez-moi, l'énergie solaire.
Oui, parce que là j'allais vous mettre une baffe.
vous combattez donc le nucléaire, vous défendez l'énergie solaire et en même temps vous combattez des projets d'énergie solaire. Alors est-ce que c'est pas un peu contradictoire ?
Non, ce que l'on combat, ce sont les projets d'énergie solaire qui sont démesurées et qui n'ont aucun sens économique. Il faut savoir qu'une centrale solaire au sol de petite taille qui permet un approvisionnement local est une excellente chose. En revanche, un projet de plus de 200 mégas, tels qu'ils sont développés par EDF et qui sont montés avec zéro emploi français, parce que dans les exemples de centrales au sol déjà existant, on sait qu'il a été fait appel à des quarts entiers d'Ukrainiens qui montent la centrale au sol en moins de 10 jours et qui après repartent. Il n'y a aucune plus-value, ni énergétique, ni écologique, parce qu'il y a une dégradation du site, ni sociale. Donc je ne vois pas l'intérêt de ce type de projet, alors qu'en revanche, nous sommes 100% favorables à ce qu'il y ait du photovoltaïque au sol, mais en quantité donc mesurée, et surtout sur toiture. Toutes les grandes toitures industrielles, que ce soit les entrepôts de logistique, les centres commerciaux, etc., doivent, selon nous, être couverts de panneaux photovoltaïques. C'est une énergie alternative extrêmement importante pour sortir du nucléaire.
Nicolas Milko, c'est votre avis aussi, le photovoltaïque en micro, multiplier les micro-sources de production solaire ou photovoltaïque ?
J'aurais une approche un petit peu différente quand même. La question, c'est de quoi parle-t-on exactement ? Si on parle de production, l'idée de dire on va construire des centrales de 200 MW parce qu'à un moment donné, Ce serait un signe fort en disant peut-être qu'on pourra faire une alternative à une production de centrales thermiques ou de centrales nucléaires.
Pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, une centrale nucléaire produit quel type de puissance et une centrale solaire ou photovoltaïque, quel type de puissance?
La puissance d'une centrale nucléaire est 10 fois ou 20 fois supérieure ou 100 fois supérieure à ce type d'installation. Donc à un moment donné, venir expliquer qu'avec du solaire, avec du photovoltaïque, on peut concurrencer des productions de masse, la réponse est c'est une mauvaise proposition. Et dans ce cas-là, je rejoindrais effectivement cette logique de dire c'est pas la peine d'aller développer des centrales solaires immenses, parce que ça n'est pas une source de production qui est faite dans la logique des sources de production qu'on peut avoir sur le territoire français. Par contre, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée de dire que le photovoltaïque doit être adapté à une dimension plus locale. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'habitat. Et que le photovoltaïque n'a de sens d'être développé que si nous avons une capacité à mettre en adéquation une production et une consommation, et qu'à la hauteur d'une production d'un panneau photovoltaïque, ce qui correspond, c'est la consommation d'un habitat. Et donc, voilà pourquoi c'est beaucoup plus logique de rentrer dans une logique régionale et locale, parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous voyez, j'essaie en fait, par rapport à votre question, de bien rééquilibrer le débat. Si à un moment donné, et là je serais curieux de connaître la réponse d'EDF, malheureusement c'est toujours pareil, on n'a pas de réponse, qu'est-ce qui a justifié la construction d'une telle centrale ? Et alors, si effectivement la construction de cette centrale correspond à un habitat de proximité sur lequel effectivement il y aurait peut-être une justification d'une telle centrale, j'en doute énormément, hein. Mais on ne sait jamais. Moi j'ouvre le débat et je dis
pourquoi. Il y a des objectifs,
je dis pourquoi pas.
Sans vouloir me faire le porte-parole d'EDF. Loin s'en faut, il y a des objectifs justement liés aux engagements, à la réduction des émissions de CO2, à la réduction de la consommation d'énergie des Français, qui ensuite incombe aux opérateurs à mettre en place, à la fois en termes de sensibilisation de leur clientèle pour réduire leur consommation d'énergie, d'une part, pour bénéficier en retour de ces fameux quotas d'obligations, et par ailleurs d'également privilégier des sources d'énergie faiblement émettrice de CO2. Alors il y a déjà le nucléaire, vous me direz.
Attention, les énergies renouvelables
en font partie.
Ne mélangeons pas tout. Si le but du jeu, c'est de remplir des tableaux Excel dans lesquels on a mis des quotas et sur lesquels on va cocher les cases en disant j'ai rempli ma surface photovoltaïque, j'ai rempli mon parc éolien et j'ai rempli mon parc biomasse, il faut être clair là-dessus, ça servira strictement à rien. Les énergies renouvelables posent à notre société une question beaucoup plus importante. C'est quelle dépendance avons-nous et comment fonctionnons-nous pour produire l'énergie qui est indispensable au fonctionnement de notre société. Et que vous voyez que quand on pose cette question-là de cette façon-là, on va aborder les choses d'une façon très différente. Venir nous expliquer que on va développer du photovoltaïque pour rattraper le retard qu'on a par rapport à nos voisins européens, ok, très bien, une fois qu'on aura rattrapé le retard, qu'est-ce qu'on aura fait ? Je dirais, le problème, il va au-delà de ça. Le problème, il est de savoir exactement quelle politique on met en place pour faire en sorte que notre société favorise le développement de ces énergies renouvelables, parce que c'est l'avenir de la production d'énergie. Souvent, j'ai tendance à dire chez Planet Wind, nous, on n'est pas des écolos qui se sont mis à l'énergie. On est des énergéticiens qui défendent les solutions écologiques parce que ce sont des solutions d'avenir.
Karine Vénin ?
Il faut rappeler également les chiffres de la production énergétique mondiale. Savez-vous que le nucléaire, dont on jure vraiment que c'est la panacée qu'en France, ne représente que 6% de la production d'énergie mondiale ? Le solaire est en train de monter.
Le solaire, on est où ?
Le solaire, on était à 1%, mais avec un développement extrêmement étendu désormais au Brésil, en Inde, en Chine et aux États-Unis. Si vous voulez... Et en plus, le solaire, désormais, arrive à la parité réseau, c'est-à-dire au prix d'équilibre. Le prix du kilowatt nucléaire peut désormais, dans certaines conditions, être atteint par le prix du kilowatt photovoltaïque.
Surtout qu'il y a des coûts qui sont rarement pris en compte. Malheureusement, on en a un exemple actuellement avec Fukushima. On voit bien que le prix de traitement, de problèmes, d'incidents, voire de graves accidents, va dépasser de loin le coût qui a été pris en compte sur la construction et l'entretien logique d'une centrale. Sans parler du démantèlement ou du stockage pour des centaines de milliers d'années, puisqu'on en parle sur Cedura.info, il est question d'enfouir pendant 100 000 ans les déchets radioactifs.
Le MOX, c'est-à-dire l'alliage quoi, entre l'uranium et les trucs pour obtenir la fission nucléaire produit des déchets pendant 24 000 ans. Qu'est-ce qu'on va en faire pour nos enfants, enfin, quand en plus le ministère nous dit ah mais les panneaux ils sont chinois, les panneaux ils se recyclent pas bien, etc., etc. Ce sont des faux débats, des faux prétextes. Le recyclage des panneaux solaires est assuré par les professionnels eux-mêmes au sein d'une association européenne qui fonctionne très bien, et c'est comme la récupération des piles, des ampoules et autres. Par ailleurs, les panneaux, ils sont pas vraiment chinois. En France, on a plutôt des panneaux européens, essentiellement allemands, certes, parce que la France a pas tellement soutenu le développement de la production de panneaux. Mais en tout état de cause, ce sont des petits débats à l'échelle du globe. Et effectivement, en ce moment, en France, à ne jurer que par le nucléaire, on rate, et pour nos enfants et pour nous-mêmes, le développement des énergies d'avenir. Et ça me paraît dramatique.
Nicolas Milko, vous parliez de Minitel de l'énergie.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette expression. Pourquoi ? Parce que le Minitel, dans les années 80, quand on avait un Minitel, on est passé à côté d'Internet. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'économiquement, Google est américain, il n'est pas français. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, le monde entier est en train de se mettre aux énergies renouvelables. Et nous, on reste fixé sur nos centrales nucléaires parce qu'effectivement, c'est aussi une technologie que nous exportons. Alors, pour pouvoir avoir un débat serein, la question, je crois qu'il faut, ce qui est important dans ce débat-là, c'est de mettre une échelle de temps et de rappeler des choses qui sont simples. La question est de dire, est-ce que l'on peut, parce que c'est souvent ce qu'on va nous reprocher, hein, on va dire, est-ce qu'on peut remplacer nos centrales nucléaires par des énergies renouvelables à l'instant T ? Que la réponse soit claire, la réponse est non, nous n'avons pas les technologies qui vont permettre de remplacer ces centrales nucléaires.
Aujourd'hui,
ça c'est clair.
De plus en plus, on entend parler, y compris certains politiques qui s'y risquent en période préélectorale, sur une échelle de 25 à 30 ans pour que ce genre de...
Voilà, la question c'est de savoir quelles sont les conditions pour lesquelles effectivement on puisse rentrer dans au moins une réduction du parc nucléaire, voire une suppression du parc nucléaire. Parce qu'en fait la réalité c'est que lorsqu'on va commencer à réduire notre parc nucléaire au profit de d'autres énergies, naturellement effectivement le parc nucléaire risque de s'éteindre, hein, tout simplement parce qu'il y aura une concurrence des sources de production. Mais faut se méfier parce que c'est pas si sûr que ça. Donc, quelles sont ces conditions ? La première condition dans le domaine des énergies renouvelables, c'est d'avoir un réseau électrique intelligent. On nous oppose souvent en disant « Oui, l'éolien, de toute façon, l'éolien, quand l'éolien, il n'y a pas de vent, que ça ne fonctionne pas, on est obligé de faire tourner des centrales thermiques. » Ça n'est pas vrai si on a un réseau électrique intelligent sur lequel on va pouvoir faire un équilibre. Les acteurs qui sont dans le métier de l'électricité connaissent bien cette notion. On va pouvoir faire un équilibre sur le réseau entre des absences de production à certains endroits et des productions qu'on va pouvoir mettre en route ailleurs pour pouvoir compenser ces absences. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Cette notion d'équilibre, elle se fait au niveau national. Hein, c'est RTE qui s'occupe de ça. Eh bien, ça reste vrai au niveau régional. Sauf qu'au niveau régional, pour l'instant, on ne peut rien faire. Notre réseau n'est pas un réseau intelligent.
Les compteurs intelligents, vous en parlez dans un des articles qui est sur votre site. C'est à peu près 300 000 compteurs Linky.
C'est le compteur Linky, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une expérimentation qu'a lancé ERDF. Ils ont lancé une expérimentation sur la ville de Lyon et en Touraine pour avoir à la fois la ville et la campagne. Ils ont annoncé il y a deux jours, hein, j'ai pas l'article complètement en tête, mais ils ont annoncé effectivement qu'ils allaient enfin démarrer ce développement de ces compteurs intelligents. C'est fondamental.
En quoi ils sont intelligents pour ceux qui nous écoutent, ces compteurs, par rapport aux compteurs bêtes?
On va mesurer quasiment en temps réel. Alors ça dépend. On essaie de voir encore exactement dans quelles conditions on va le faire. Mais globalement, l'idée c'est d'avoir une vision très précise de la consommation d'électricité de chaque compteur. Donc on va voir quasiment la courbe en temps réel de la façon dont on consomme dans chaque habitat.
C'est-à-dire à la fois l'opérateur, mais aussi le consommateur pourra suivre sa consommation.
On l'espère. Il y a un projet qui est de déporter effectivement, et en tout cas nous Planète Oui, on mettra les technologies en place pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus sensibilisé. Je pose souvent une petite question qui est toute simple, hein, au niveau de la consommation d'électricité. Vous savez tous qu'une voiture qui fait du 5 litres au 100, c'est une voiture qui consomme moyennement 3 litres au 100, ça commence à être mieux. Je serais curieux de savoir qui est capable de me dire combien est-ce qu'il consomme de kilowattheures au mois. Vous voyez cette notion de savoir combien...
Estimé ou réel?
En réel, on va plutôt parler en réel. Et voilà l'avantage du compteur Linky. Le compteur Linky va vous permettre de prendre conscience de votre consommation d'électricité. Il va vous permettre aussi, par exemple, lorsque vous installez des lampes basse consommation, vous avez le sentiment d'avoir réduit votre facture d'électricité et de combien? Eh bien, ce compteur Linky va vous permettre effectivement de constater une baisse en temps réel de vos consommations d'électricité. Ça, nous, on le fait déjà chez Planète Wiz. C'est pour ça qu'on incite nos clients à déclarer leur consommation. Le fait de déclarer sa consommation, c'est quelque chose qui... on s'approprie la notion du kilowattheure.
C'est une prise de conscience.
C'est une vraie prise de conscience.
On consomme du consommateur. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on revienne à ces histoires d'énergie. Vous disiez tout à l'heure qu'une centrale photovoltaïque produisait en 10 à 100 fois moins qu'une centrale nucléaire. Alors, si on imagine qu'on sort du nucléaire dans 25, 30 ans, à quoi va ressembler le paysage français ? C'est-à-dire qu'il n'y aura que des panneaux photovoltaïques sur les toits, il y aura des éoliennes un peu partout dans la campagne, il faudra construire des barrages supplémentaires. Comment on peut faire ?
Alors, il y a plusieurs technologies qui sont en place. Premièrement, la question, c'est, il y aura du panneau photovoltaïque, ça c'est sûr. La question, c'est avec quelle technologie ? Par exemple, les Japonais et les Américains sont sur des, au niveau de la recherche, sont sur des cellules de synthèse qui vont permettre d'avoir une efficacité et une production beaucoup plus intéressantes que ce qu'on fait avec les panneaux actuels. Donc, il est clair que dans 20 ou 30 ans, nos panneaux photovoltaïques auront des productions beaucoup plus importantes. Au niveau de l'éolien, il y a beaucoup de technologies qui sont en train d'être testées. Il y a d'ailleurs des expériences françaises, il faut le savoir, qui sont assez intéressantes sur le petit éolien. Alors, le petit éolien, on n'en parle jamais parce que on ne sait pas pourquoi on a fait une croix dessus en France.
Qu'est-ce qu'on entend par petit éolien ?
Petit éolien, ce sont des petites éoliennes qui sont adaptées à l'habitat. Alors, évidemment, ça s'adapte difficilement en centre-ville. Hein. C'est plus pour les lotissements ou
qu'on peut
pour
les gens dans son jardin pour sa propre consommation.
Tout à fait, où on peut produire sa propre consommation. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans la technologie du petit éolien, ça n'est pas uniquement le fait qu'on va se concentrer sur le vent des vents turbulents qu'il pourrait y avoir dans les centres-villes. C'est qu'on est en train de développer une technologie de la microproduction. Et c'est ça qui est important. C'est de bien comprendre. En fait, en réalité, pour répondre clairement à votre question, comment est-ce qu'on produit l'électricité dans 30 ans avec les nouvelles technologies ? On n'en sait rien. C'est justement la spécificité des nouvelles technologies. Personne n'aurait parié qu'on pourrait regarder la télévision sur son téléphone portable il y a 30 ans.
Sans compter également les développements sur le stockage de l'énergie. Vous savez que la principale difficulté avec l'énergie, c'est qu'elle ne se stocke pas. Or, il y a des progrès énormes faits en matière de batterie et de stockage. Donc, je crois beaucoup à ce que l'avenir, dans 20 ou 30 ans, repose sur un mix, d'abord, de réduction des consommations. Parce que la meilleure énergie, hein, l'énergie la plus propre, hein, rappelons-le, c'est celle qu'on ne consomme pas. En deuxième lieu, je crois beaucoup, effectivement, à l'autoconsommation. Donc, on va être responsabilisé avec le prix de l'énergie qui augmente. Hein, ça va inciter chaque citoyen à faire attention au coût du kilowattheure qu'il consomme et développer donc des énergies propres, locales et adaptées à sa propre consommation par le biais éventuellement donc de l'autoconsommation, de l'autoproduction et du stockage de l'énergie.
Ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Hein.
C'est-à-dire
que la production de son propre toit ou de son éolienne ou du petit ruisseau dans le jardin pour ceux qui habitent à la campagne, il doit être revendu
sur le réseau.
Et réinjecté sur le réseau.
On va corriger quand même une petite chose là-dessus, c'est que ça n'est pas possible d'être rentable. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, si vous consommez l'électricité qui est produite par votre panneau photovoltaïque, vous n'amortirez pas votre panneau photovoltaïque en quelques années. Ça, c'est clair et net, il faudra beaucoup de temps et le coût, du coup, sera très, très élevé. Ça, c'est une réalité.
Mais techniquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut se...
On peut être autosuffisant. Ah,
mais c'est pour ça que quand vous allez dans les Alpes, dans les chalets, et si vous faites un peu de randonnée comme moi, vous apercevrez que les chalets ont un panneau photovoltaïque sur le toit.
Ils ne sont pas raccordés au réseau.
Donc, c'est ça, ils ne sont pas raccordés au réseau.
On continuera ce débat sur les énergies entamées ensemble après une petite pause musicale. A tout de suite.
La Radio Nature. Thank you.
Reprenons ce débat sur les énergies renouvelables, nouvelles énergies, toujours en compagnie de Nicolas Milko, PDG de Planet Oui, d'Ariane Vénin, fondatrice d'Écologie sans frontières, et avec Cyril Souche de CDurable.info, excusez-moi, je perds mes mots.
C'est que le deuxième jour, Grégory. Oui, un débat très apaisé, puisqu'on n'a pas de contradicteurs, on a même au contraire deux fervents engagés en faveur des énergies renouvelables. Ariane Vénin, qui est porte-parole du mouvement Écologie sans frontières et qui également est venu défendre « Touche pas à mon panneau solaire ». Et Nicolas Milko, qui est le PDG de l'entreprise Planète Oui, donc qui dit oui à la planète avec 100% d'énergie renouvelable.
Tout à fait, on est un fournisseur pour les particuliers et les petits professionnels.
Alors, on a vu un peu toute la problématique de ce débat de l'énergie, pour lequel j'ai bien compris que vous faisiez partie de ceux qui sont en faveur d'ouvrir un vrai débat sur l'énergie, pour pas dire un Grenelle de l'énergie. Cette deuxième partie, ça serait intéressant, beaucoup de gens constatent les problèmes et beaucoup cherchent désespérément des solutions. Alors, on aimerait bien vous entendre sur qu'est-ce que vous proposez concrètement face à cette situation qui paraît un peu bloquée, où il est particulièrement difficile d'avoir des réponses face à des acteurs qui sont majeurs, qui verrouillent complètement le système, que ce soit au niveau légal ou au niveau production ou rachat. Quelles sont les possibilités d'action qui sont offertes à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient collectivités, entreprises ou simples particuliers?
Les consommateurs. Alors, une chose qui est importante de comprendre, c'est que les consommateurs ont aujourd'hui un véritable bulletin de vote dans leur façon de consommer. Et c'est important de le comprendre, ça, parce que malheureusement, en France, c'est pas encore assez développé, cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? En tant que consommateur, vous pouvez déjà essayer. Il y a quelques grands principes qu'il faut vite abandonner. Tous les clients qui sont en mensualisation. Vous savez que c'est une tendance qu'on fait assez régulièrement. Vous voyez que là, pour le coup, je prêche pas ni pour ma paroisse, ni pour les autres. C'est quel que soit votre opérateur d'électricité, sortez de la mensualisation. La mensualisation, c'est un piège qui va faire en sorte que vous ne prenez pas conscience de votre consommation d'électricité. Vous allez avoir votre facture comme ça régulièrement tous les mois, qui est tout le temps la même. Puis une fois par an, soit vous avez une bonne nouvelle, ou soit vous avez un coup de bambou, selon si on vous fait un chèque, ou selon si vous devez payer une somme plus ou moins importante. La réalité, c'est que quand on est mensualisé, on est totalement détaché de sa consommation d'électricité. Donc, vous voyez, une chose toute simple déjà à faire, c'est de dire, eh bien non, aujourd'hui, moi, ma facture d'électricité ou ma facture de gaz, je fais en sorte de la payer en fonction des consommations réelles qui y sont associées. Ça, c'est un premier point. C'est accessible à tous et ça coûte rien.
Mais alors, qu'est-ce que ça change réellement? On la payera une fois par an et il y aura une.
Ça va vous permettre de prendre conscience. De prendre conscience quel est votre volume de kilowattheure que vous consommez dans votre habitat.
Mais est-ce que ça change pas si on a simplement un changement une fois par an, mais on sait que les mensualités vont augmenter, donc ça veut dire qu'on a pu chauffer son appartement ou on a consommé plus d'électricité et on va faire attention pour l'année suivante?
Quand on a pris conscience, on va pouvoir effectivement baisser, mais on va baisser de combien? Et quelle est l'action qui est à mener? Et quel est mon volume de consommation? Si vous n'avez pas quelques repères simples, vous ne pouvez rien faire. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur une chose. Pour ceux qui en ont les moyens, lorsque vous êtes propriétaire de votre habitat et que vous vous chauffez à l'électricité, abandonnez le chauffage électrique. Abandonnez, prenez n'importe quelle autre source de production, mais n'utilisez pas l'électricité pour vous chauffer. C'est une aberration. Ça ne sert à rien. Le rendement énergétique est catastrophique. Vous voyez qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est une des premières actions, c'est de s'approprier la question de l'électricité et de faire en sorte de mener des actions comme ça où on va faire en sorte de réduire sa consommation d'électricité.
Mais que peut faire l'immense majorité des personnes qui sont locataires, parfois dans des logements sociaux et qui ont été tout équipés avec les grille-pains électriques pour se chauffer, et sans compter effectivement les problèmes de précarité énergétique que ça comporte, puisque ça prend une part et ça englobe une part significative de leur budget?
C'est une question difficile. C'est une vraie question difficile. J'allais vous dire, il y a une des possibilités, c'est de changer de fournisseur d'électricité. Alors qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça va faire en sorte que les interlocuteurs au niveau du gouvernement vont évoluer. Vous n'aurez pas uniquement EDF pour pouvoir proposer ces tarifs de première nécessité. Vous aurez d'autres interlocuteurs qui feront en sorte de vous apporter et de rentrer dans le débat. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. Le problème, c'est que quand on est locataire, on est un petit peu...
Mais même en propriétaire, Nicolas, vous parliez de prise de conscience, de bulletin de vote, quand on voit le taux d'abstention aux dernières élections locales, et qui sont peut-être les seules un peu concrètes à l'échelle locale, puisque ça touche à la vie de son territoire, des gens, de l'école, de la commune, des rues. On voit que il est loin déjà de la prise de conscience à l'acte, et encore plus à l'acte militant et engagé. Donc,
oui, de mon point de vue, j'ai tendance à considérer que les Français ne sont pas du tout comme les Allemands, qui arrivent à mobiliser 300 000 personnes contre le nucléaire. En France, je ne crois guère, malheureusement, à ces solutions individuelles. Je pense qu'en revanche, il peut y avoir une action politique forte, qu'elle soit à destination des régions ou de l'État, dans le cadre des prochaines présidentielles.
Mobilisation collective ?
Mobilisation collective, mobilisation politique.
Vous me parliez, quand on préparait cette émission, Nicolas Milko, d'une mobilisation aussi un peu le contraire du boycott, puisque dans « Touche pas mon panneau solaire », on s'oppose à quelque chose, mais il y a aussi la possibilité de se mobiliser en faveur de quelque chose. Et vous venez de sortir une initiative en ce sens qui est toute récente.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a appelé les carottes mob énergie. Alors les carottes mob, on l'a pas inventé. C'est un organisme qui s'est lancé aux États-Unis, qui est un concept très simple. C'est de dire à un moment donné, on va mobiliser tout un ensemble de consommateurs vers des professionnels qui acceptent de s'engager dans les solutions de développement durable. Donc ça se concrétise comment? Ça veut dire que l'organisation va voir un supermarché, on lui dit voilà, on va multiplier par 10 telle journée votre chiffre d'affaires en mobilisant les gens sur Facebook. Ils vont venir acheter dans votre magasin. La question, c'est que faites-vous de la marge que vous allez dégager ce jour-là? Et nous, on vous demande que cette marge-là soit utilisée dans des actions de développement durable, du relamping au niveau des basses consommations, utiliser des produits écologiques, etc. L'idée, c'est de dire, il y a des actions toutes simples comme ça qu'on peut mettre en place. Donc moi, j'invite toutes les associations à lancer des carottes mob en France.
Vous avez une page, par exemple, qui...
Alors nous, on a créé le carotte mob énergie. Donc nous, on s'est approprié la notion de carotte mob et on a proposé à toutes les associations de nous mettre au défi. La première qu'il fait aujourd'hui, c'est un parc d'activité qui s'appelle Aura Technologie, qui est basé à Lille. Il y a 1600 salariés. Eh bien, on a discuté avec eux, on s'est mis d'accord. On a dit s'il y a 300 souscriptions qui viennent chez Planète Oui, donc c'est du vrai business pour nous, hein, puisqu'on va avoir de nouveaux clients. 300 souscriptions.
Nous, 300 souscriptions, donc qui souscrivent à une énergie 100% renouvelable.
Voilà, qui souscrivent à notre offre d'électricité 100% renouvelable. Eh bien, nous, en échange, on va offrir gratuitement une petite éolienne qu'on va installer sur votre parc d'activité. Comme ça, vous allez constater vous-même que le fait de simplement changer de fournisseur d'électricité et d'adhérer à Planète Oui, ça a des conséquences concrètes. C'est que ça a permis l'installation d'une petite éolienne sur votre parc d'activité. Ce genre d'initiatives, on peut les multiplier. On peut faire en sorte de, nous, Planète Oui, on s'expose au défi et on dit à toutes les associations, eh bien, venez nous provoquer, venez nous dire ce que vous attendez. Si vous mobilisez tout un ensemble de consommateurs, qu'est-ce qu'on devra faire en échange?
Alors, à propos des éoliennes, on a une question d'une auditrice, Cindy, qui vous transmet cette question. Elle nous dit, beaucoup de municipalités mettent en avant la pollution visuelle pour ne pas implanter des éoliennes. Elle parle aussi des cordes à linge qui gênent le paysage et qui, permettraient de lutter contre l'usage des sèches-linges. Alors, que faire à opposer comme contre-argument à cette pollution visuelle, Ariane Vélin?
Écoutez, vous préférez voir quoi? Une éolienne dans le paysage ou une ligne à très haute tension? Un gros pylône horrible, dangereux, cancérigène. Soyons raisonnables. Ce débat sur l'acceptabilité sociale des éoliennes est typiquement, là encore, franco-français. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que orchestré par le... J'en reviens toujours à ce grand... débat nucléaire contre ENR, orchestré par les nucléocrates qui nous gouvernent, on a fait croire que les éoliennes tuaient les petits oiseaux, faisaient du bruit, étaient dangereuses, émettaient également des sons ou des... c'est n'importe quoi. On s'est fait mener en bâton Et cet argument donc relayé par les juges, hein, que les juges ont bien pris en compte du préjudice esthétique que pourrait causer une éolienne, cela me paraît être un faux procès, un mauvais procès fait à cette énergie d'avenir.
Alors quels sont les moyens d'action ?
Néanmoins, en France, on n'a pas su faire, comme en Allemagne, au Portugal, où il y a beaucoup d'éoliennes, une appropriation collective de cet outil. Parce qu'il faut savoir qu'un procès sur deux contre les éoliennes est fait par le voisin d'à côté, qui est furieux que l'agriculteur du coin, son concurrent, ou bref, touche 5000 euros à l'hectare, et que lui, il ne les ait pas, alors qu'il subit la même contrainte visuelle. Donc, il faut savoir que dans tous les autres pays, on met en place des coopératives énergétiques. On développe une appropriation collective de ce service public de l'énergie. Et ça, en France, très rares sont les opérateurs qui commencent à comprendre qu'une logique collective pourrait prospérer. Et j'en reviens au fait que les collectivités régionales et territoriales ont de ce point de vue-là une grande responsabilité à jouer dans le changement de notre modèle énergétique de demain. Donc moi, j'ai extrêmement confiance dans la prise en compte par les régions de cette thématique énergie. Et on peut souligner que certaines sont assez exemplaires, notamment Poitou-Charentes, notamment Rhône-Alpes, en soutenant clairement et abondamment ce type d'énergie.
Alors, on continue avec les questions des auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Cette question de Marc, quelle est la consommation d'un 3 pièces pour 3 personnes ? Consommation, donc un 3 pièces qui est alimenté à l'électrique. Nous payons environ 500 euros par an, nous dit Marc. Quel est le coût normal moyen ?
On est dans une facture moyenne. 500 euros par an, c'est honnêtement, c'est pas beaucoup. C'est bien, c'est un consommateur qui fait attention. La puissance souscrite moyenne des Français, c'est 6 kW. Hein. C'est 6 kW. Alors après, vous avez deux tarifications. Vous avez ce qu'on appelle les options base et les options heure pleine, heure creuse, appelées communément le tarif jour-nuit. En moyenne, en France, on consomme 4000 kWh par an. Voilà, 4000 kWh à 11 centimes, on va être à peu près dans la facture d'électricité de cet auditeur. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est une consommation moyenne, à condition que vous n'ayez pas de chauffage électrique. Si vous avez du chauffage électrique, là, votre facture, elle va flamber, ça c'est clair. Ouais, tout
à fait. Quand on est à 11 centimes du kWh en achat, en tant que consommateur, et que donc forcément à 12 centimes pour acheter l'électricité produite, Ariane Vénin nous disait tout à l'heure que c'est pas possible, c'est pas rentable, ça veut dire qu'on a artificiellement accepté des coûts d'énergie qui sont en dessous des seuils que coûte l'énergie renouvelable. Mais vous qui êtes un opérateur 100% énergie renouvelable, vous vendez votre électricité au tarif réglementé, donc comment vous faites ? Vous êtes pas plus cher, mais vous perdez de l'argent ?
Non, soyons clairs. Si on voulait vraiment, si on achetait sans aide de l'État l'électricité renouvelable, on pourrait pas le vendre au tarif régulé. Ça, c'est clair. En fait, le système est fait actuellement de telle façon à ce que le producteur, lui, bénéficie des aides de l'État et il va pouvoir vendre son électricité renouvelable au même prix que les autres électricités. Donc, c'est pour ça que nous, à partir du moment où on est connecté au réseau français et qu'on fonctionne en partie avec EDF, on va pouvoir effectivement utiliser une électricité renouvelable, accessible pour tous. Parce que ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'énergie renouvelable ne soit pas un sport d'élite. Il ne faut pas que ce soit une écologie élitiste qui... il faudrait sortir son chéquier pour pouvoir consommer de l'électricité 100% renouvelable. Il y a un système qui le permet. Alors effectivement, c'est un peu pénible parce qu'on est obligé de passer par EDF. Donc on est obligé de rajouter à notre système de sourcing un système de certification d'électricité. Système qui est effectivement un petit peu discuté au niveau des organismes et des associations. Et c'est vrai qu'on peut faire mieux avec ce système de certification. C'est vrai qu'il y a un autre opérateur, j'en parlais tout à l'heure, c'est Enercoop. Enercoop, lui, a mis en lien effectivement les producteurs et les consommateurs, mais il est aussi obligé de passer par EDF puisqu'on est tous connectés au réseau et que de construire un deuxième réseau, ce serait complètement stupide. Donc voilà, après ça, c'est le consommateur qui choisit. Est-ce qu'il préfère effectivement aller dans une logique de dire je veux absolument un électron vert, même si en fait en réalité l'électron vert ça n'existe pas, ou est-ce que je vais auprès d'un opérateur qui sera dans une démarche j'ai mis les mains dans le cambouis pour faire simple, et en fait on discute aussi avec EDF parce qu'on est obligé de discuter avec EDF en France, c'est pas le choix, c'est malheureusement le défaut du monopole.
Alors une question peut-être pour vous, Nicolas Milko, une auditrice qui nous dit Vous disiez tout à l'heure, les particuliers peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. Pour elle, son agence de location qui gère son logement lui interdit de changer de fournisseur.
C'est illégal. C'est totalement illégal et malheureusement, c'est pas la seule à nous le dire. On a souvent des appels nombreux chez Planète Oui où les gens nous disent, bah voilà, on voudrait souscrire chez vous, on voudrait venir chez vous, mais mon propriétaire il n'est pas d'accord. Et ça, typiquement, c'est une espèce d'influence. Difficile à identifier, mais on a tous à l'esprit cette idée de dire « Ah, EDF quand même, EDF, ah, on ne voudrait pas quitter EDF. »
C'est rassurant.
C'est rassurant, il y a un côté rassurant. Eh bien, si vous le pouvez, vous le pouvez. Et vous ne remettrez pas d'ailleurs en cause complètement la notion de service public autour de la fourniture d'électricité. C'est ça qui est important. La notion de service public, elle est assurée par ERDF et par RTE. On a séparé les métiers. Alors certes, c'est encore des filiales d'EDF, soyons clairs là-dessus. Mais vous pouvez changer de fournisseur. On parlait tout à l'heure des actes concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, changer de fournisseur. Changer de fournisseur, c'est essayer de dire voilà, j'essaie de faire bouger les choses. Alors évidemment, je vais pas vous dire de forcément aller chez nos concurrents de Pau, Direct Énergie ou Gaz de France. Et pourquoi pas? Si déjà vous pensez qu'il est important de faire bouger les choses, eh bien commencez par changer de fournisseur. Venez pas forcément chez Planète Oui, mais faites en sorte que le débat s'ouvre et qu'il y ait différents acteurs autour de la table.
Et exiger éventuellement, puisque c'est une des seules manières pour les consommateurs, qu'ils soient collectivités, entreprises ou particuliers, ces certificats d'énergie verte. Alors effectivement, l'électron qui les
Ah, je sens que vous êtes parti sur la notion de qu'est-ce qu'un électron vert ou pas.
Alors c'est pas parce que j'ai un certificat vert que mon électricité est verte.
Qu'est-ce que ça signifie avoir consommé une électricité 100% renouvelable? Ça veut dire que je suis connecté au réseau, je consomme de l'électricité, mais l'électricité ça se stocke pas, donc je consomme l'électricité qui est dans le réseau. Donc je tire l'électricité du réseau. Le fournisseur d'électricité, lui, son rôle, c'est de mettre en même temps la même quantité d'électricité dans le réseau. Donc vous voyez, on fait l'équilibre. C'est la notion qu'on évoquait au début de l'émission. On fait l'équilibre par rapport à votre consommation. Donc ce qui est important, c'est de s'assurer que le fournisseur d'électricité, lorsqu'il réinjecte de l'électricité dans le réseau, il réinjecte de l'électricité d'origine renouvelable. Voilà. Et donc, en fin de compte...
Qui correspond à ce que vous aurez payé en tant que particulier, mais cette énergie n'est pas forcément celle qui, à vous, vous payez pour l'énergie verte, mais ce n'est pas forcément celle-là que vous consommez dans votre
appartement. Il n'y a pas de certificat de traçabilité de l'électron. On n'a pas pu mettre une étiquette dessus pour savoir où est-ce qu'il allait.
Mais vous, en tout cas, vous garantissez chez Planète Oui ou chez Enercop que cette énergie est 100% non nucléaire.
Ah, tout à fait. Voilà, de toute façon, si une électricité nucléaire, il faudrait d'abord qu'il y ait un certificat nucléaire pour pouvoir certifier que c'est l'électricité nucléaire, donc c'est absolument pas le cas. Et non, c'est pas le cas. Il y a des notions qui sont importantes à comprendre, parce que souvent la question qui va suivre derrière, c'est est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est faisable? Eh bien, prenons les choses simplement. Les particuliers, les petits professionnels représentent 30% de la consommation française. Vous voyez, on parle pas de production là, on parle de consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les particuliers décider de consommer de l'électricité renouvelable, eh bien, il y aurait une demande de 30% d'électricité renouvelable dans le réseau français.
Et est-ce que vous pourriez fournir cette électricité?
Non. La réponse est non. Et donc, ça veut dire qu'on va créer la demande, tous ensemble, on va créer la demande. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, des fois, on achète, faut être clair là-dessus, on achète des certificats en Europe aussi, enfin en Suisse, sur les pays limitrophes à la France, parce qu'on n'a pas assez de production renouvelable en France. Et donc, si tous les particuliers se décident à consommer de l'électricité renouvelable au même prix, eh bien, nous favoriserons la demande d'électricité renouvelable. Et vous voyez que, très logiquement, ça c'est une question de business, lorsque vous créez la demande, il y aura forcément l'offre qui se mettra en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va fédérer des acteurs qui vont proposer une offre d'électricité renouvelable et que, naturellement, on va réduire la part d'impact du nucléaire dans le réseau français.
Ariane Venin, voilà, vous partagez ce point de vue avec le collectif Touche pas à mon panneau solaire?
Oui.
C'est par la demande qu'on peut faire changer les choses?
C'est par la demande et c'est pour autant que parmi les actions simples, c'est vrai que sur les mobilisations dans la rue, on n'y croit guère, mais sur Facebook, par l'initiative Planète Oui ou par le collectif Touche pas à mon panneau solaire, il y a une mobilisation, une prise de conscience indispensable que les Français doivent faire. Au-delà de ça, au-delà de cette action, donc sur la demande d'énergie verte, je crois vraiment qu'il faut faire monter le débat politique et quelque part sortir du nucléaire avec le scénario de l'association Négawatt nous paraît être réaliste, un scénario réaliste.
Qu'est-ce que c'est que ce scénario?
En deux mots, c'est l'association Négawatt a prévu un scénario jusqu'en 2020 pour sortir du nucléaire, un scénario qui est très simple, qui se qui repose sur deux piliers, 30% de consommation en moins et 70% de production verte en plus. 70%, c'est donc évolutif. Hein. Il est clair qu'on ne sortira pas du nucléaire du jour au lendemain. Mais en revanche, arrêter toutes nos centrales vieillissantes, toutes nos centrales qui ont des difficultés à la fois de sécurité, mais également de sous-traitance du personnel. Car là encore, j'insiste sur l'aspect de l'emploi. Les énergies renouvelables, en France, c'est 25 000 emplois. C'est 200 000 emplois en Allemagne, avec un taux d'ensoleillement pourtant.
Belle marge de progression,
voilà,
en France.
Il y a une belle marge de progression. À l'inverse, l'industrie nucléaire, c'est également 200 000 emplois. Mais c'est surtout 180 000 sous-traitants qui, eux, n'ont aucune des mesures de protection et de sécurité. Et donc, socialement, je crois qu'il y a une vraie prise en compte, au-delà des critères écologiques, la prise en compte sociale me paraît fondamentale dans ce débat.
On a tous intérêt à passer aux énergies renouvelables. En tout cas, ce débat, malheureusement, touche à sa fin. Merci, Ariane Vénin. On peut continuer à s'informer sur le site « Touche pas à mon panneau solaire », tpamps.fr. Merci également à Nicolas Milko de Planète Oui. Donc on peut dire non au nucléaire, oui à la planète et à l'énergie 100% renouvelable sur le site planète-oui.fr. Merci à tous les deux.
Merci à tous les deux. Merci Cyril Souche.